17h. Il est 7h du matin. Et c'est l'heure. C'est l'heure de dormir debout.
On n'a rien dans le casque.
Bonjour.
Bonjour.
Vous vous levez à quelle heure le matin?
En week-end ou quand on travaille?
C'est vrai que j'ai jamais travaillé. Alors
je me lève.
Moi je suis étudiant.
Autour de 8h.
Ah non, c'est café à 10h.
Moi généralement je me lève
8h moins le quart.
Moi de matin?
Non, je suis pas trop du matin effectivement, mais fort ça me levait le matin.
6h.
9h30, mais je fais une demi-heure de gym.
Bah, j'ai eu des coups de pompe, oui, donc mais ça passe, ça dure quoi?
Puis j'avais les enfants à préparer, alors là c'était...
Ouais, c'était du travail, je me levais 8h moins le quart, c'était dur, hein.
Du matin, lundi 20 janvier, 7h01. Nous voici. Nous sommes en studio comme d'habitude pour la matinale de Dormir Debout. Et ce matin, cela va faire presque une semaine que le fascisme a perdu son visage. Jean-Marie Le Pen est mort. Vive la mort. Jean-Marie Le Pen nous a quittés. Vive la mort. Il semblerait que même la table de Radio Canu quitte ses possibilités et a envie de faire grève pour fêter la mort de Jean-Marie. 7h01, vous partez au travail, vous vous levez, vous allez vous coucher. C'est l'heure de se remettre au chaud près de son aimé, de sa petite envie de dormir, de son gros sommeil qui passe, de se retrouver auprès de ses rêves ou alors d'aller supporter auprès de son patron une semaine encore bien remplie. En tout cas, nous, ce matin, tant bien que mal, on s'est réunis pour vous faire une petite matinale de 3h, de 7h à 10h, sur l'antenne de la plus rebelle. Et pour ça, on va adopter une position verticale, une mentalité horizontale. C'est l'heure de dormir debout.
Toi là. Putain, ce délire. Eh mais là, t'as l'air fatigué là. Là, franchement, fatigué là. Mais attends, mais t'as un œil qui tombe là en fait. Si, carrément, t'as l'œil qui tombe. Ah ouais, non, mais si, je t'assure en fait, regarde, t'as l'œil droit qui tombe. Ouais, en fait, c'est pas qu'il tombe, mais c'est qu'il souffle pas à 100%. Il a raté son réveil. Oh là là. Puis ce pif, je sais même pas quoi en penser. Remarque, on l'a toujours pensé pour moi. Bon, faut dire t'as un temps blafard aussi, ça t'aide pas, gars. Allez, vas-y. Souris. Montre-moi que tu peux le faire. Crois-y, putain. Perds pas la face.
Alors le visage, il sert à quoi?
Bah ouais, t'as rien. À tenir les yeux.
Le visage, les choses n'ont pas de visage, n'est-ce pas? Et des maisons ont des façades qui sont probablement dans notre représentation l'équivalent d'un visage, n'est-ce pas? Mais la chose première, la relation exceptionnelle, n'est-ce pas, quelle relation autrui, a précisément cette relation avec les visages où un être est à la fois ouvert et cependant ouvert lui-même, n'est-ce pas? Et cependant reste essentiellement autre.
Donc qui se dérobe toujours.
Si tu fais la gueule, tu perds la face. Faut toujours sourire.
Moi, c'est le reflet de l'âme. Ça dépend. Ça dépend à quel âge.
C'est sourire du Bouddha, tu vois.
Parfois, je vois un sourire.
Pas trop sourire, mais faut sourire à la fois.
Tout est dans le visage. La personne, elle peut tout s'exprimer avec un visage. On n'a même pas besoin de parler. Juste un sourire, des fois, ça égaye une journée.
Les yeux, c'est ce qui ressort vraiment.
Waouh, ok.
Enfin, moi, en tout cas, je me sens attiré par le regard de l'autre.
On n'a pas besoin de parler.
Du corps. Toujours, j'ai une très belle sourire. Toujours ça.
La sensation dans les yeux.
sympa. Sympa.
Quand on me voit, ça se voit que je suis quelqu'un de sympa, donc les gens m'approchent facilement.
Parce que si t'as pas de visage, t'es là. Quand tu peux pas voir, tu peux pas respirer.
Bah, les gens ils m'ignorent que je suis dans la rue, je la réclame des sous. Bien sûr qu'ils m'ignorent. 9 fois sur 10, c'est ça le pire.
Les yeux.
Les yeux ?
Ouais.
Ouais. Pourquoi les yeux ?
Parce que c'est là qu'il y a tout ce qui se passe.
Il y a les yeux, la bouche, les dents.
Les dents, très important les dents. Très porteur de caractères sociaux.
Les
cils. Ouais. On doit avoir un visage allumé ou éteint comme un volet. Comme un phare de voiture ou un visage qui clignote. Donc c'est selon l'humeur des gens.
Ah, il y a aussi des oreilles.
Selon ce que la personne a vécu, c'est comme un une vitrine.
Le nez, c'est l'âme. L'âme et le nez. Comme disait l'autre là. Et si vous savez. Cyrano, voilà, c'est ça, Cyrano. Ben moi, je peux vous le dire, là où je suis, c'est une vraie responsabilité, le nez. Parce que, moi, bon, je suis comme tout le monde. J'aime le café le matin, l'odeur de la confiture, surtout de fraises. J'aime pas quand ça pue. Non, non, je suis comme tout le monde. Je me regarde dans la glace et, très honnêtement, je me trouve un peu gros. Mon architecture épisée, mon teint rosâtre, glissant parfois au jaune quand la cousine fume ses chemises juste en dessous. Non, franchement, je suis comme tout le monde.
Oh, pardon. Et autrui, ce n'est pas un être vague, c'est pour vous quelqu'un qui porte un visage.
Écoutez, ça n'est en rien un être vague. Et je veux dire, chaque être endosse, comme j'endosse, la responsabilité de ce que je suis. Un bibelot sur la bibliothèque du visage. Bon, ben, là, moi, j'ai une petite galère, parce que, bon, ben, je me suis barré de la gueule, comme on dit. Le burn-out, quoi, l'alarme reniflée une fois, deux fois, trois fois, et bam. Non mais je vous dis, moi je suis comme tout le monde. Maintenant, si vous voulez que je vous en parle, eh bien parlons-en, parce que, voyez-vous, je me suis extirpé de la responsabilité qui était la mienne, enfin. On m'a mis au chômage, surtout, mais ces bureaucrates derrière leur beau bureau cervelé, soi-disant que la conjoncture n'est pas bonne et qu'il faut faire des économies sur le budget, blablabla. Bla bla. Non, ils m'ont remplacé par un nez plus droit, plus lisse, enfin, voilà quoi. Moi, j'ai jamais su ce que ça voulait dire conjoncture, alors imaginez où j'en suis aujourd'hui. Mais enfin, je peux te dire que d'être un nez, c'est dur, c'est dur. Alors nous les nez, on est littéralement au milieu. On n'a pas beaucoup de mobilité, hein, c'est vrai. On ne fait pas partie des attributs de communicabilité. On ne parle qu'avec la bouche et les yeux, mais pas avec le nez. Non, non. Nous autres, les nez, sommes le foyer de tous les stigmas, d'appartenance, de caractère. Nous sommes figés sous nos apparences qui soudent l'identité. Moi, je vous le dis, c'est fastidieux. Je ne sais pas très bien ce que veut dire fastidieux, mais je le sens comme ça. Alors, voilà, ils considèrent qu'on n'est pas assez neutre, ils nous veulent sans bavure, alors ils nous remplacent, voilà. Alors que nous ne voulons pas déroger à cette responsabilité de nez, car le nez d'emblée est celui qui... Enfin, comment vous dire, le nez d'emblée est celui qui... Que tout regarde et qui est responsable dans ce sens-là de toute chose.
C'est avec ton visage que tu réponds.
C'est vrai.
Tu lui fais comprendre que c'est le bébé, tu lui fais les gros yeux, les petits yeux. À un bébé, tu lui fais les gros yeux, les petits yeux, tu lui fais le lapin, le loup, le renard, etc. Tandis que si t'as pas de visage, t'es mal. Regarde quelqu'un qui a été brûlé au visage. On évite de le regarder, on évite de croiser son regard.
J'ai la lèvre supérieure avancée. J'ai poussé mon pouce quand j'étais petit, donc ça a fait avancer mon palais.
Malheureusement, c'est des cicatrices.
Quand je vois maintenant, je me dis que je ressemble à son âme, à mon père. Et pourtant, je me disais, mais jamais je vais ressembler à cette tête de lard. Et maintenant, plus je vieillis, plus je lui ressemble. Et je suis content de lui ressembler quelque part maintenant qu'il est parti.
Souvent, vaut mieux sourire. Comme ça, tout passe. Si tu fais la gueule, t'es moins accessible, tu vois.
On peut mentir et laisser paraître ce qu'on veut aux autres, tu vois.
Tu vois quoi, toi, dans le regard d'une personne ?
Quelque chose qui s'explique pas.
et qu'on ressent, si on est sensible. Mais après, si on est insensible, on voit rien du tout, parce qu'on pense qu'à sa gueule. Et si on est plus dans l'altruisme, on veut chercher l'autre à comprendre, bah là, on voit plein de choses.
Ça signifie que contre cela, contre le monde dur, il faut lutter et qu'on peut l'améliorer. C'est uniquement une confiance, avant tout une confiance dans l'efficacité de l'initiative humaine.
Bon allez, va te coucher là, il est 3h du matin. Putain, demain ça va être dur. En même temps, moi j'aime la nuit. J'aime son énergie. Et cette nuit, c'est un texte de Giorgio Agamben qui m'a fait rester éveillé. Un texte sur le visage, justement. Qui dit « Tous les êtres vivants sont dans l'ouvert. Ils se montrent et se communiquent les uns aux autres. Mais seul l'homme a un visage. Seul l'homme fait de sa manière d'apparaître et de se communiquer aux autres êtres humains sa propre expérience fondamentale. Seul l'homme fait du visage le lieu de sa propre vérité. Ce que le visage expose et révèle n'est pas quelque chose qui peut être dit en mots, formulé dans telle ou telle autre proposition signifiante. Dans son propre visage, l'homme se met inconsciemment en jeu lui-même. C'est dans le visage, avant que dans la parole, qu'il s'exprime et se révèle. Est-ce que le visage exprime n'est pas seulement l'état d'âme d'un individu ? C'est avant tout son ouverture, sa manière de s'exposer et de se communiquer aux autres hommes. C'est pourquoi le visage est le lieu de la politique. Il n'y a pas une politique animale, c'est seulement parce que les animaux, qui sont déjà toujours dans l'ouvert, ne font pas de leur exposition un problème. Ils y demeurent simplement sans s'y préoccuper. C'est pourquoi ils ne s'intéressent pas au miroir, à l'image en tant qu'image. L'homme, à l'inverse, veut se reconnaître et être reconnu. Il veut s'approprier sa propre image. Il cherche en elle sa propre vérité. De cette façon, il transforme l'ouvert en un monde, dans le champ d'une incessante dialectique politique. Si les hommes avaient à se communiquer toujours et seulement des informations, toujours telle ou telle autre chose, il n'y aurait jamais à proprement parler de politique, mais uniquement échange de messages. Mais puisque les hommes ont avant tout à se communiquer leur ouverture, c'est-à-dire une pure communicabilité, le visage est la condition même de la politique. C'est en quoi se fonde tout ce que les hommes se disent et s'échangent. Le visage est, en ce sens, la vraie cité des hommes, l'élément politique par excellence. C'est en se regardant en face que les hommes se reconnaissent, se passionnent les uns pour les autres, perçoivent ressemblance et diversité, distance et proximité. Oh, Foutu Radio.
Votre visage aux yeux changeants comme la mer. Votre visage est un paysage si clair. Votre sourire qui s'illumine rien que pour moi semble me dire je suis ta joie. Et je suis aussi ta jeunesse, cheveux d'or en boucle d'amour. À toi, ma vie, ma tendresse, à toi, mon cœur, pour toujours. Votre visage aux yeux changeants comme la mer. Votre visage est un paysage si clair, si clair. Mm-hmm. mais aussi ta jeunesse. Cheveux d'or en boucle d'amour. À toi, ma vie, ma tendresse. À toi, mon cœur, pour toujours. Votre visage aux yeux changeants comme la mer. Votre visage est un paysage si clair, si clair.
Au début, il n'y avait pas Dieu. Enfin, si, mais ils étaient fermés. La bouche aussi. Les lèvres étaient scellées. On n'aurait jamais pu croire qu'elles pouvaient s'ouvrir. Le nez n'inspirait pas, n'expirait pas non plus. Aucun tremblement au niveau des narines, aucun frémissement, rien qui puisse perturber la tranquillité des traits. Aucun son ne parvenait aux oreilles. Ou alors si lointain que personne n'appelle ça un son. Un bruissement, un cri étouffé, un fantôme de bruit. Donc au début, il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'odeur. Il y avait une figure, mais il n'y avait pas de visage. Qu'est-ce que voient des paupières qui ne se sont jamais ouvertes? Qu'est-ce qu'entendent des oreilles assourdies? Pas rien sûrement, mais rien surtout. Des bribes de choses, mais la langue sans goûter et les yeux sans voir. Les oreilles pas encore nées. La figure enfermée, privée des sens. Mais surtout la figure privée des émotions. Plutôt la figure vierge des émotions. La figure qui n'a pas encore écarquillé les yeux de peur. La figure qui n'a pas encore fait tomber la mâchoire, surprise. La figure qui n'a pas encore froncé un sourcil, pincé une lèvre, versé une larme, sorti les dents, reniflé le sol, gonflé les joues, aboyé sur les passants, léché les babines, croqué la chair. Les yeux toujours fermés, les paupières toujours collées, le nez est humide, les oreilles tombantes, les dents minuscules. Avant toute chose, il y a eu le cri. Bref, presque aussitôt tu. Ensuite, la figure enfouie confortablement dans la fourrure. La figure tranquille, qui tâtonne, cherche le lait. Pour la première fois, la figure renifle, elle se dirige. Dans le noir, elle cherche de ses mains, de son nez, la tétine qui lui apportera ce qu'elle désire. Et puis elle trouve, ouvre la bouche, aspire. Alors, la figure devient un peu plus visage. Elle goûte, boit, se délecte, se désaltère. À chaque sens, la figure devient un peu plus visage. Elle sort la langue, couine un peu, renifle ce qui lui passe sous le nez, écoute sa mère ronfler. Et puis après tout, la figure un jour ouvre les yeux. Elle a les yeux ouverts. Elle a les yeux si grands ouverts que la lumière lui pique la rétine, la faisant verser une larme. Elle a les yeux si grands ouverts qu'elle ne voit presque rien. Elle les ferme seulement pour les ouvrir quelques minutes plus tard. La vision se précise, la lumière se calme, les yeux ne sont plus éblouis. Pour la première fois, ils regardent. Les yeux découvrent la mère, les sœurs, les frères et puis moi. Moi, de mes yeux, je regarde. Et c'est la première fois que je pose le regard sur le visage de mon chien.
D'écouter Daydreaming de Radiohead en direct sur Radio Canu pendant la matinale.
personne bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Fort bien.
J'ai un peu la gueule enfarinée ce matin. J'ai vraiment une gueule, quoi.
Tu vas bouffer.
Ouais. J'ai bouffé mon sommeil. Je m'apprête à voir la journée qui rentre dans mes yeux. Puis j'ai ce petit son dans le fond, là. Comme vous savez, les vieux tourne-disques.
C'est la texture.
C'est ça. La texture. Vous aussi, vous l'entendez ? Les auditeuristes de Radio Canu. Sur la matinale Dormir Debout.
Sur la matinale, ça nous arrive des fois pour alimenter les ondes, alimenter les réveils, de voyager dans des contrées inconnues pour interroger des êtres qui ne parlent pas dans nos dimensions, en dehors de la bande FM 102.2. Et pour la matinale, aujourd'hui, Dormir Debout est allé interviewer les larmes.
Dormir Debout, reportage.
Alors c'est comme ça que j'ai commencé et je me suis détaché doucement de la paupière. Et la paupière, c'est un paysage très particulier parce qu'il y a beaucoup d'instabilité et toujours beaucoup de lumière. Une lumière froide qui t'arrive en pleine face est très éblouissante. Et le sol, il est argileux. Alors on peut s'enfoncer très très facilement. Alors pour quitter la paupière, j'ai fait progressivement. J'ai quitté en douceur. Je commençais par rouler. Et je savais qu'il y en avait eu beaucoup avant moi qui avaient fait ce trajet. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont jamais revenues. Alors... J'ai jamais eu personne pour m'expliquer la route. J'ai roulé pendant, je sais pas, longtemps, un temps indéfini, en direction de l'arête du nez. Un temps indéfini, pas si long, mais pas si court pour autant. En fait, pour aller au nez, c'est un long vallon, et c'est assez agréable, il nous amène en bas du col. Et puis là, en bas du col, t'arrives en bas, tu vois le nez, et tu te dis, faut monter quoi. Alors, pour la première ascension au niveau du nez, je savais qu'il fallait être équipé pour gravir, pour escalader, et je l'ai fait en plusieurs étapes pour profiter des nouvelles images. Il y avait pas mal de traces de sel, alors pour gravir, c'était simple de pas se perdre. Mais il faut dire, pour moi, passer de l'océan à la montagne, c'est pas peu de choses. Je me souviens qu'en haut, il y avait beaucoup de vent. Puis on voit pas le bout. Il y avait une vue infinie sur la vallée des pommettes. C'était beau de voir cette immense étendue de collines. Et je me souviens m'être dit que je croyais pas ce que je voyais. Au fond, je pense que j'y croyais vraiment pas du tout. Et je pensais que... Je pensais que c'était pas vrai avant de partir, je me suis dit que c'est pas possible. Il pouvait pas avoir autant de choses sur un visage.
bien celui-là là-bas. C'est marrant ce qu'il a. Il a des lignes parfaites sur le front. Des rides comme si on les avait tracées au stylo. Il y a vraiment zéro bavure. Tout est droit, aligné. Même sous ses yeux. Ça glisse. Il a un visage un peu formel. Un nez droit. C'est bon, aussi. On a l'impression qu'il est dans la certitude. Le visage qui regarde quelque chose qu'il ignore. La bouche mi-ouverte. Avec des lèvres plutôt rouges. Il a un regard droit. Des pupilles noires. Et ses yeux sont décalé vers son nez. Il est très beau. Il est très très beau.
Moi, je trouve qu'il a un visage qui dure vraiment longtemps. Il a un visage qui dure au moins une semaine. Mais très vif. Une semaine très chargée. J'ai envie de dire presque une semaine pleine de kystes. Et puis sa coiffure, c'est comme un toupet. Un petit toupet qui aère un peu ces kystes qui durent une semaine. Le virage de son nez me fait penser à une orbite. Son nez fait une orbite autour de son œil. Et son oreille fait une orbite autour du nez. Et son autre œil, il fait une petite lune autour du nez, autour de l'œil, à côté de l'oreille. C'est comme un petit système de planètes qui dure une semaine.
Lui là-bas, il sonne différemment des autres. Quand on met ses doigts en partant du haut jusqu'au bas, c'est comme si on venait caresser du crépi. Pourtant, je peux t'assurer que je sens que c'est rouge. Et que chaque son que j'arrive à saisir s'écarquille un peu comme des idées qui n'arriveraient pas à rester stockées et qui lutteraient pour sortir les unes après les autres qui oserait même faire un concours, qui oserait se regarder et se dire en fait, peut-être que c'est moi qui suis la meilleure idée, peut-être que c'est moi qui pourrais sortir de ce visage, peut-être que c'est moi qui pourrais même le rendre public. Mais quand je mets mes mains dessus, il a pas un visage public. D'ailleurs, le visage, sincèrement, ça devrait pas être public.
Un visage cassé. Il a la gueule cassée, a dit mon frère. Moi, j'aime bien les gueules cassées. Pas pour glorifier la misère. C'est dégueulasse de glorifier la misère. C'est dégueulasse. Ça dégueule aussi de dévisager les gens. Les gens qu'on connaît pas dans un bar qu'on connaît bien. Ça dégueule de regarder les gens dans les yeux. Regarder dans la peau, regarder dans les joues. Connaître un visage comme s'il était imprimé dans notre peau, dans nos traits, sous nos doigts. Comme si on pouvait le dessiner dans le sable, juste par son volume, sans regarder. Juste par la pulpe des doigts et en laisser l'empreinte, comme sur les pics en métal du jeu qu'on avait quand on était petit. Un visage cassé. J'en ai cassé des gueules. J'en ai gueulé des caisses. Envisager un visage. Le trouver beau à avoir envie d'en pleurer. Le trouver beau à avoir envie de le connaître par cœur, dans ses traits et dans ses sillons, dans ses bosses et dans ses creux. Le regarder discrètement, par intermittence, par interstice, sans croiser les yeux, jusqu'à l'imprimer, jusqu'à le graver dans la mémoire, et savoir en reconnaître le côté gauche et le côté droit, même quand c'est en fait un miroir qu'on regarde. Pour lui, c'est facile, puisqu'il a la gueule cassée. Asymétrie parfaite, côté gauche, côté droit, profil gauche, profil droit, en voir apparaître des bouts, des fragments, par-dessus l'épaule de l'un, par-dessous le bras de l'autre. En voir des angles pas encore envisagés. Trois quarts gauche, 7/8 droit. Un bout d'oreille seulement. Entendre la ritournelle qui tourne dans ma tête, entre mes tempes. Je devine ton visage et si ce n'était qu'un mirage, j'ai du mal à tourner la page. J'aurais dû te faire l'amour aux premières lueurs du jour, mais j'ai trop bu toute la nuit et je danse comme un zombie. Ça sent la loose, la loose, la loose. Nothing to lose, to lose, to lose. Et lui alors? Tu l'envisages? Un visage cassé. J'ai une gueule. Il a une gueule. Une gueule cernée, une gueule asymétrique, une gueule qui a traîné dans les rues, qui a ramassé des gueules, une gueule qui a chassé les escargots car vécu dans leur vivarium. Une gueule qui ne ressemble à aucune autre car même la première moitié fait la gueule à l'autre. Et entendre dans ma tête, entre mes tempes. Même que ton œil disait merde à l'autre et surtout à moi. Une gueule désarmante, un sourire délicieux. Une gueule comme un lac tranquille, comme une mer d'huile, où la moindre pierre qui tombe entraîne une onde de dérèglement. Comme le sourire désarmant vient remonter les cernes, décaler la bouche, éclaircir la barbe, ôter la ride d'intersourcil. Il a une gueule, il a de la gueule, une grande gueule même, un grand visage. Il a de la gueule, celle qu'on aimerait connaître, reconnaître. C'est lequel le visage que tu connais le mieux? C'est lequel le visage que tu as le plus longtemps regardé? Jusqu'à savoir lequel des coins de l'intérieur des yeux est plus pointu que l'autre. Quelle amande est plus aiguë. Comment sont implantés le début des cheveux, où finissent les joues, où commencent les pommettes. La distance entre le haut des orbites et le début des sourcils. La forme des plis sur le front. Les marques, les fêlures, les brisures. Le visage marqué. Le visage démarqué. Le visage remarqué. Et marqué encore, encore et encore. Il a une gueule. Il a de la gueule. Il a que de la gueule. T'as que de la gueule, toi, qu'il m'avait dit. Un autre visage. Un visage qui flotte au-dessus de la foule, qu'il m'avait dit. Mais avec ta grande gueule, t'as que de la gueule. Avec ton grand visage, t'as que du visage. C'est idiot. Ce qu'il voulait pourtant dire, c'est que je n'avais que du corps. Que je n'avais qu'un corps. Que je n'étais qu'un corps. Un visage cassé. Comment se représentent les gueules cassées? Celles qui ont trop vécu, trop peu dormi, pris trop de poudre, trop aidé, trop servi, trop aimé, trop subi. Une gueule cassée par la vie. Une belle gueule, figure-toi.
Un visage qui en a défiguré des gueules, qui en a dévisagé. Une gueule défigurée, c'est une gueule en plus grand. Un coquard qui déborde, une bouche qui dégueule du sang. Une bosse sur le front, un œuf, une lèvre enflée. Et une gueule dévisagée alors. Une gueule sans visage, où tu arraches ce qui ressemble à la gueule du dévisagé, pour laisser moins, pour ôter plus, pour enlever, pour lisser, pour poncer. Une gueule qui n'aurait plus aucune gueule. Une gueule lisse, un sable sans accroc, une mer d'huile, un lac tranquille, un gadget où il n'y a pas un clou qui a bougé, où ils sont tous bien sagement alignés, sans un mot plus haut que l'autre. J'ai cassé peu de gueule. J'ai cassé peu de gueule. J'ai peu défiguré. J'ai souvent envisagé. J'ai beaucoup dévisagé. J'ai dévisagé à en vouloir en emporter avec moi les traits, à vouloir en emprunter les airs, à vouloir l'emprunter ton visage, juste un peu, à vouloir le dérober, je te le rendrai ton visage. J'en ai dévisagé des figures, aux segments fins ou rudes, aux fragments dessinés ou vulgaires, tracés au burin, esquissés à la craie, croqués au crayon, croqués à pleine bouche. Je voyais tout de son visage, de son corps, froidement. Ses cils, l'ongle de son orteil, la minceur de ses sourcils, de ses lèvres, les mailles de ses yeux, tel grain de beauté, une façon d'étendre les doigts en fumant. J'étais fasciné. La fascination n'étant en somme que l'extrémité du détachement, par cette sorte de figurine coloriée, faïencée, vitrifiée, où je pouvais lire, sans y rien comprendre, la cause de mon désir.
Après avoir passé une nuit froide et venteuse sur le pic du nez, fallait que je redescende, donc j'ai entamé la descente. Et c'était plus rapide que la montée, mais il fallait faire attention aux éboulements. Donc en descendant, j'ai réussi malgré quelques, quelques embûches, quoi, mais j'ai rapidement atteint la vallée des pommettes. Et là encore, j'ai été assez surprise du sol mou et de la difficulté que j'avais à marcher sur les joues. En fait, après une toute première colline, où c'est encore la terre ferme, le reste, c'est super instable. Et ça m'a un peu inquiété, je savais pas où et comment passer la nuit, en fait. Mais bon, à vrai dire, c'est beau, mais c'est vraiment pas un lieu propice pour se perdre. Donc, j'y suis allé pas à pas et j'ai espéré garder mon chemin. Je me souviens que l'horizon, elle était claire et c'était dégagé. Et c'était agréable de pouvoir voir au loin comme ça. J'ai même eu la sensation de traverser cet endroit pendant une éternité. Il y avait les couleurs qui changeaient très rapidement. Il y avait du blanc, ça passait du blanc, du rouge. Parfois même, on pouvait voir du rose. Et ça m'a rappelé, quand j'étais petite, quand on montait jusqu'à la pupille pour regarder les cils s'ouvrir tous les matins. Sauf que là, bah, j'étais aussi dans la lumière. Et la température aussi. La température, elle était différente. Et brusquement, je me souviens, alors que je grelottais, je me mettais d'un coup à suffoquer. C'était beaucoup plus long que j'imaginais, cette traversée. J'ai dormi sur des protubérances bizarres, mais il y avait des cratères aussi où on pouvait s'abriter du vent. Et après plusieurs jours, je suis enfin arrivé au bord des Lèvres. Et là, j'ai pris une pause. Bon, j'ai quand même pris la décision de ne pas m'aventurer trop loin sur la bouche parce que j'avais peur des tremblements de terre. Je savais qu'il pouvait y avoir, des tremblements de terre violents là-bas. Et en plus, une chute dans la cavité de la bouche, bah, c'était fini, quoi. Mais j'ai décidé de continuer ma route en descendant une commissure et je m'y suis enfoncé. J'y étais bien. Je me souviens, j'étais vraiment bien. J'étais tellement bien que je pense que j'ai été ému, j'avais envie de pleurer, quoi. C'est un peu ironique, non ?
Pour ne venir qu'en un point. Ses yeux s'entrechoquent avec son nez. Son nez s'entrechoque avec sa bouche. Rien n'a l'espace. Tout se touche. Aucun contour. Comme si on avait foutu ça, là, comme ça. Plaqué sur une page blanche, sans vie.
À trois, ben c'est très bien, c'est parfaitement.
Les oreilles surplombent le reste. Elle s'entortille. Elles font corps. Avec cette surface, avec ce contour, elle se plie au geste du reste. à celui des yeux bleus qui te regardent, qui se regardent eux-mêmes, mais dont le nez s'extirpe avec une telle agilité. Ce visage, il a vraiment le rôle du méchant. Vous savez, ce méchant, mais méchant malgré lui. On l'a mis là. Il a joué son rôle. Comme chacun des éléments de ce visage, ils jouent leur rôle.
Regarde, il me fait penser celui-là. Il me fait penser à la personne qu'il devait être. Il me fait penser à qui je devrais être pour pouvoir le regarder sans avoir honte. Il lui manque terriblement. Il lui manque tellement qu'on ne sait pas très bien ce qu'il lui manque. En tout cas, ce que je sais, ce que je pense, c'est qu'il dissimule. Il a un visage dissimulacre. Il a un visage. Il n'y a pas de visage. Son non-visage est acre. Et puis, il y a toujours cette absence de la personne qu'il était. Il y a toujours ce maître de qui il répond. Il agit comme une marionnette qui dépasse ce maître. Qu'il était.
C'est surprenant parce que j'aurais jamais cru voir ça un jour de ma vie. Je veux dire, ça fait quand même des siècles que je suis assis sur ce banc. Bon, les gens, ils me regardent comme un tout parce que je suis une statue. Alors, mes mains, mon pied, ma tête, mon buste, c'est la même chose, c'est de la pierre. Mais là, quand même, c'est la première fois en toutes ces années que je vois passer quelqu'un à qui il manque un nez. Et c'est pas que son nez a été cassé ou a été coupé, non, c'est un visage tout à fait bien pensé, proportionné, pommettes saillantes, bouche pulpeuse, yeux perçants, peut-être même un menton carré, mais il n'y a pas de nez. Le nez, soit on n'y a pas trouvé sa place, soit on commence doucement à ne plus en avoir besoin.
Sans présent sur les gens bien. Mais comme le sphinx, on demeure présent néanmoins. Néanmoins, on demeure présent néanmoins. Comme le sphinx, on demeure présent néanmoins. Sans sur les gens bien. Mais comme le sphinx, on demeure présent néanmoins. Néanmoins, on demeure présent néanmoins. Comme le sphinx, on demeure présent néanmoins. Le néanmoins, mais jamais sans le respect des anciens. On s'élance loin, le futur peut être dépassé si on se présente bien. Payer les 12 principaux, projeter ses lendemains. Les blouses de l'enfant indigo, sans eux, je ne représente rien. Enseigner enseignant, des traumatismes enterrés en peignant. J'ai géré sans gérant, mais levé en rêvant. Car trop stère et austère, honneur et au sternum. African seas, high frequencies sur des clairs drums. Le show, je performe comme personne. Sans le passé, on performe. J'ai percé, je perfore, je repère les perles d'or. On reste fort, de manière humble, humaine. On restaure notre tanière dans cette jungle urbaine. J'étais le même quand j'avais pas une scène. L'esprit au bord du Nil sans être opportuniste. J'apporte une histoire censurée. Les Templiers et les Templiers. Les planètes alignées par milliers qui regardent briller nos grains de sable dans leur sablier. Sans sur les gens bien. Mais comme le sphinx, on demeure présent néanmoins. Néanmoins, on demeure présent néanmoins. Comme le sphinx, on demeure présent néanmoins.